Vous avez besoin d'un peu de matériel et je vous propose de fermer les yeux parce qu'on va se pencher sur deux cas de figure différents. Alors pour le premier cas de figure, on n'a pas besoin de prendre une position méditative, mais simplement en fermant les yeux, ça facilite un petit peu le travail. Un moment désagréable, un moment de stress aigu, un moment désagréable, si possible récent, que vous soyez d'accord de revisiter tout à l'heure, puisqu'on le fera. Un moment où vous avez ressenti de la colère ou de la frustration ou de la tristesse ou de l'anxiété ou de la culpabilité ou de la honte. Quelque chose. Alors ça, c'est pour le stress aigu. Maintenant, on va aussi aborder les problèmes chroniques. Alors, par problème chronique, on en rencontre régulièrement, on en a toujours un plus ou moins, qui est plus ou moins important. Je sais que le premier des problèmes chroniques que j'ai rencontrés dans ma vie, c'était un problème avec le sommeil. Je crois que j'avais à peine 5 ou 6 ans. J'ai déjà raconté ça pendant une retraite. Et alors que tous les enfants sains et équilibrés dormaient, j'étais en train de me demander quelle est la différence entre le sommeil et la mort. Ça ne m'aidait pas à m'endormir. Et mes problèmes de sommeil sont devenus chroniques pour plein de raisons, mais une des manières dont je l'ai remarqué, quand j'étais adolescent, je pense, c'est que les bonnes nuits, les nuits où je dormais bien, étaient des nuits sans insomnie. Ce n'étaient pas des bonnes nuits pour moi. Donc ce problème, même quand il n'était pas présent, était présent. C'est-à-dire que les bonnes nuits étaient simplement un répit dans un flot continu d'insomnie. Et quand un problème qu'on rencontre est présent, même quand il est absent, c'est-à-dire quand il ne quitte jamais vraiment le champ ce à quoi on pense, on peut considérer qu'il a pris cette place de problème chronique. Donc que ce soit un problème de santé physique, que ce soit un problème psychologique, un trouble de la personnalité, un problème relationnel qu'on a directement avec quelqu'un ou des problèmes relationnels entre des proches, toute cette catégorie de problèmes qui finissent par devenir des espèces de nuages au-dessus de nos têtes, on a l'impression qu'ils sont tout le temps là. Donc j'aimerais vous proposer de prendre le temps de à nouveau fermer les yeux si vous ne l'avez pas fait et de vous poser la question. Quel est mon nuage du moment? Si vous deviez en choisir un, peut-être celui qui occupe le plus d'espace, ça peut être un problème de santé physique, ça peut être un problème de santé psychologique, problème relationnel. Il y a un idéal face aux problèmes chroniques quand on part du principe qu'on est impuissant à les changer. L'idéal, c'est de faire l'expérience de ce qu'on appelle l'acceptation, c'est-à-dire cette capacité à ce que justement ce gros nuage noir perde de son importance parce que on accepte sa présence. Et il y a cette citation de Michael J. Fox que j'aime bien. Oui, c'est toujours drôle de se dire que c'est Michael J. Fox. Si vous voyez sa tête, c'est cet acteur qui jouait les Golden Boys dans les films dans les années 80 et qui a été atteint de la maladie de Parkinson il y a, je pense, une vingtaine d'années. Et il faut comprendre aussi cette citation dans le contexte du rapport qu'il a avec sa maladie. Il y a une idée qui m'est apparue il y a quelques années et que j'aime beaucoup. Mon bonheur est simplement proportionnel à mon acceptation et inversement proportionnel à mes attentes. C'est la clé pour moi. Si je peux accepter la vérité de voilà ce que j'ai à vivre, ce n'est pas ce que j'attendais, mais c'est la réalité de mon expérience, alors il me vient toute cette liberté de vivre d'autres choses. Et c'est évidemment juste. Il suffit de l'entendre pour savoir que c'est vrai. Mais l'acceptation, je trouve que c'est délicat de la prescrire. Parce qu'en fait, l'acceptation n'est pas un truc qu'on peut générer. C'est un résultat. C'est une conséquence de ce qu'on peut faire en lien avec les problèmes qu'on rencontre. Et l'acceptation nous tombe dessus comme une heureuse surprise, mais on ne peut pas se dire « accepte » ou « sois plein d'acceptation ». C'est un peu la même chose que pour le pardon. J'ai toujours, alors, il se peut que je me trompe, mais j'ai toujours trouvé que le pardon dans les relations humaines, c'était une espèce d'idéal. Mais de prescrire le pardon, il faut pardonner. Oui, on sait bien qu'à partir du moment où on est capable de pardonner à quelqu'un contre qui on était très en colère, on sait qu'on se sentira mieux. On sait que pour nous, c'est la meilleure des issues possibles. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut décréter. Et c'est la même chose pour l'acceptation. Donc, ce que j'aimerais évoquer, c'est les moyens de favoriser l'apparition de l'acceptation au travers de la méditation, d'une attitude méditative. Et il y a un poème très court de Wendell Berry qui, pour moi, évoque exactement ce qu'on peut faire pour aller dans cette direction-là. Je le lis d'abord en anglais avec mon accent abominable parce que c'est beaucoup mieux en anglais que dans ma traduction. Je vous lirai ma traduction aussi. To go in the dark with the light is to know the light. To know the dark, go dark. Go without sight. And find that the dark too blooms and sings and is traveled by dark feet and dark wings. Aller à l'obscurité avec de la lumière, c'est connaître la lumière. Pour connaître l'obscurité, reste dans le noir. Va sans rien y voir. Tu verras que l'obscurité, elle aussi, fleurit et chante, et qu'elle est parcourue par de sombres pattes et de sombres ailes. C'est une invitation à explorer cette chose obscure, les problèmes, hein, avec une curiosité qui permet d'y voir des choses qu'on ne verrait pas si on s'arrête au fait que c'est simplement sombre. Alors, concrètement, donc la question, le genre de question qu'on se pose, première chose importante à mes yeux, ça ne va jamais être « qu'est-ce que la méditation peut faire pour que ça aille mieux ?» ni « comment puis-je contrôler mes émotions, contrôler ma douleur, contrôler ma maladie, contrôler mon trouble de la personnalité ?» ni « que faire pour changer ce que je ressens et comment je le ressens ?» Avec toute cette catégorie de questions-là, en fait, au moment où on les pose, on fait deux choses. On oriente notre esprit vers le futur, parce qu'on pense à un résultat qu'on aimerait obtenir, donc on n'est déjà plus dans l'instant présent. On est dans un futur meilleur. Et on désire autre chose que ce qu'on a, donc on rejette aussi ce qu'on a, la situation présente. Donc ce sont des questions qui nous mettent en position de penser au futur et de rejeter ce qu'on est en train de vivre. Donc ce n'est pas des questions très méditatives, même si elles sont humainement inévitables et complètement légitimes, mais ce n'est pas ce genre de questions-là qu'on va se poser. On peut simplement observer quand c'est ces questions-là qu'on se pose. La question dans une perspective méditative face à un problème qu'on vit, la question c'est « puisque je vis ce que je vis, alors, pendant que je le vis, quelle est la meilleure chose que je puisse faire de mon attention ? Quelle est la meilleure façon dont je peux employer mon attention durant ce moment-là ? » Et ça, c'est une question méditative. C'est la question qui nous permet de faire usage de notre attention d'une façon qui soit appropriée, aussi appropriée que possible, dans une situation qui est difficile pour nous. Et ça nous renvoie à l'instant présent et au choix qu'on fait par rapport au rapport qu'on a à cet instant-là. partant du principe évidemment que ce qui nous arrive, si on pouvait le changer, on l'aurait déjà fait. Donc que ce n'est pas à ce niveau-là que se trouve une réponse appropriée pour nous. Ça, c'est la question. Maintenant, à cette question, quelle est la meilleure chose que je puisse faire de mon attention ? Il y a deux catégories de réponses. Ou bien on se focalise sur autre chose que le problème, la distraction, puisqu'il y a beaucoup d'autres choses dans notre expérience que le problème et la façon dont il se manifeste pour nous. On peut délibérément penser à autre chose, faire usage de notre capacité à concentrer notre attention sur quelque chose volontairement, qui est ce qu'on cultive avec la méditation, et penser à autre chose volontairement. Et la deuxième chose qu'on puisse faire, c'est observer le problème, observer ce qui nous arrive, en pleine conscience, d'une manière méditative, donc d'une manière différente que d'habitude, qui soit plus adéquate et plus fructueuse pour nous. Et on va explorer les réponses qu'on peut apporter à cette fameuse question dans ces deux cas de figure, le stress aigu, le moment de stress qu'on vit, et on peut parler de stress chronique, ou en tout cas de problème chronique. Alors, le stress aigu, si vous avez suivi un cours MBSR il y a longtemps, je vais vous faire un récapitulatif de la perspective qu'on a dans le cours. Un stress aigu, il y a un stresseur, une situation qui nous met dans un état de stress. Quand on est face à ce stresseur, on a une réaction physiologique. Notre corps se met en mode combat ou fuite, c'est-à-dire que le cœur va battre plus vite, que le corps va s'activer dans cette réaction de stress. En même temps que cette réaction physiologique, en tout cas on le vit de façon simultanée, il y aura une émotion, de la peur, de la colère, toutes sortes d'émotions désagréables liées à des moments de stress. Et c'est le moment important pour nous, après cette émotion, il y a presque toujours une réaction à l'émotion. On peut surenchérir sur l'émotion, on peut avoir peur des conséquences de ce qu'on est en train de vivre, on peut fuir dans une plaque de chocolat ou un verre de whisky. C'est ces réactions qu'on avait appelées les flèches dans le cours MBSR et qui peuvent transformer un moment de stress qui aurait pu durer 90 secondes en 5 heures de rumination, de boulimie, d'alcoolisme et de séries télé avalées en boucle sans obtenir pour autant le soulagement ni la satisfaction. Mais le stress est une bonne chose en lui-même. Il nous permet de faire face aux problèmes qu'on rencontre. Les émotions qui accompagnent le stress sont d'excellentes choses. La colère nous permet de mobiliser notre énergie, de passer à l'action. L'anxiété, la peur nous permettent d'éviter des situations problématiques. La tristesse nous permet de chercher du réconfort quand on en a besoin, de se reposer parfois. La culpabilité et la honte évitent qu'on soit des psychopathes et nous permet de vivre de façon harmonieuse avec nos proches. Donc, les émotions sont utiles et appropriées en elles-mêmes. Et même la réaction, j'avais donné cet exemple dans le cours, si vous l'avez suivi il y a 2 ans ou moins, de mon rapport à ce distributeur automatique Selecta, où je m'étais trouvé régulièrement devant ce distributeur et je fuyais quelque chose de désagréable en mettant une pièce dans le distributeur et en prenant un choquito que je mangeais sans en profiter et pour lequel je me sentais mal après coup. Et quand je m'en étais rendu compte, j'avais arrêté de prendre le choquito, j'étais très fier de moi. Je m'observais simplement être dans un état désagréable face au distributeur quand j'étais stressé, mais je ne le prenais pas. Et quelques semaines plus tard, j'ai délibérément choisi le choquito. J'ai mis une pièce en pleine conscience, j'ai pris le choquito, je l'ai mangé en savourant chaque morse, et j'étais très content de moi. Donc la fuite dans le chocolat n'est pas nécessairement une mauvaise chose. L'ingrédient magique pour vivre un moment de stress d'une façon satisfaisante, c'est la pleine conscience. Si on est en pilotage automatique et qu'on se jette sur le chocolat sans qu'on soit conscient de ce qu'on fait, on va forcément souffrir des conséquences de ce qu'on leur a fait. Si on savoure chaque morse du chocolat, ça peut être une réponse adéquate à une émotion qu'on n'a pas l'autre moyen de vivre de façon satisfaisante, un moyen de trouver un état plus agréable. Donc ça, c'est la théorie pour le stress aigu quand il nous tombe dessus. Nous avons ici un magnifique cortex préfrontal qui nous permet de réguler, entre autres, de réguler nos émotions et d'inhiber les comportements inappropriés. En situation de stress, l'amygdale, donc le siège des émotions, au moment où, paf, l'émotion liée à la situation de stress apparaît dans le cerveau, l'amygdale va activer des réseaux dans le cerveau qui vont court-circuiter, bloquer le fonctionnement du cortex préfrontal. Donc cette capacité à moduler nos émotions, à filtrer les réponses inappropriées, on la perd. Donc en situation de stress, on est plus vulnérable justement aux mauvaises solutions, aux mauvais circuits habituels que sont le recours au chocolat, la rumination en boucle, et toutes ces choses. Ce fameux, cette part de sagesse en nous, de modulation de l'émotion, dire « mais c'est pas grave, on va faire ça », n'est plus là. Et c'est pour ça qu'il y a tant de personnes, pour prendre l'exemple de la nourriture, parce que ça marche extrêmement bien, qui n'ont pas envie de manger un paquet de chips entier, qui trouvent ça grotesque de le faire. Et si on leur dit « mais est-ce que ça te paraît une stratégie appropriée quand tu es stressé de manger un paquet de chips en entier ?» Elles diront « non ». Donc elles le savent, leur cortex préfrontal est complètement au courant. Et il sait aussi que c'est insatisfaisant quand elles l'ont fait. Mais en situation de stress, il y a cette inhibition du cortex préfrontal, on devient un peu idiot et on mange le paquet de chips. Donc, la méditation, ça a été étudié, densifie le cortex préfrontal et diminue la taille de l'amygdale. Et diminue aussi les connexions fonctionnelles entre le cortex préfrontal et l'amygdale. Donc diminue la capacité de l'une de court-circuiter l'autre. Donc quand on médite, on active le cortex préfrontal, qui est justement cette capacité à moduler les émotions, mais à faire preuve de métacognition, d'observation de ce qui se passe en nous. Et plus on médite souvent et depuis longtemps, plus ce cortex préfrontal sera renforcé, autant qu'on puisse en juger par les quelques études qui ont été publiées jusqu'à présent. Donc on va de plus en plus diminuer ces circuits de comportement habituel du amygdalien. Et la méditation permet de rétablir un fonctionnement normal, approprié de ce fameux cortex préfrontal. Donc, quand on pratique ces pauses méditatives en situation de stress, si ça peut vous aider de vous imaginer ce qui se passe dans votre cerveau, c'est ça, en fait. On arrête, on appuie sur pause, et en méditant, on réactive cette capacité à filtrer les comportements inadéquats et à prendre des décisions appropriées qui répondent vraiment aux problèmes que nous pose la situation de stress. Encore une fois, peu importe quand on le fait, pour ces mini-méditations, on peut les faire avec un peu de chance. Quand on vit pour la première fois la situation de stress, on peut les faire dans un deuxième temps, quand on subit encore l'impact de ce qu'on a vécu, ou on peut les faire beaucoup plus tard, en rentrant chez soi, quand on rerumine pour la énième fois la même situation, et que c'est le flashback qui est le stresseur et plus une situation réelle qu'on est en train de vivre. Mais ça n'a pas d'importance. On peut réactiver ce cortex préfrontal à n'importe quel moment. Ça nous permettra toujours de vivre l'instant d'après différemment. C'est ce que dans le cours, je parle de la 348e flèche. Si on en est à la 348e flèche, c'est-à-dire si on a eu des heures de rumination et de fuite et d'anticipation anxieuse et de jugement de nous, on peut quand même vivre l'instant suivant différemment. C'est toujours ça de pris. Donc, on va vivre une mini-méditation pour vous rafraîchir la mémoire, avec peut-être juste un rappel. Ces mini-méditations sur les moments de stress, on y utilise un mélange de cette capacité à nous distraire, c'est-à-dire à penser volontairement à autre chose qu'au problème, et aussi cette capacité d'observer en pleine conscience les émotions qu'on est en train de vivre. On y a recours au corps, parce que le corps est le meilleur moyen de se saisir d'une expérience désagréable. Le corps est toujours dans l'instant présent, Donc à partir du moment où on s'intéresse au corps, on ne rumine plus ou moins, tout en étant en contact intime avec ce qu'on est en train de vivre. Donc c'est un bon moyen. J'aime bien le mot de se saisir d'une expérience désagréable, parce que si on veut se saisir de quelque chose de désagréable au travers de nos pensées, elles sont tellement difficiles à appréhender, elles ont une telle tendance à s'auto-alimenter et à prendre de plus en plus d'ampleur que c'est très difficile de le faire. Par contre, de commencer par s'intéresser à ce qui se passe dans le corps, ça nous donne une forme de stabilité dans le rapport qu'on a à un moment de stress. Je rappelle la phrase de Kabir dans son poème que j'aime bien. « Sois fort alors et entre dans ton propre corps. C'est seulement là que tu trouveras un sol ferme pour tes pieds. » Alors je vous propose de le faire ensemble. Vous avez un souvenir d'un problème que vous avez vécu, un moment de stress que vous avez vécu. Tout le monde a quelque chose ? Ok, ça semble être le cas. Alors vous pouvez vous installer dans une position évidemment confortable. La méditation ne sera pas longue. Mais pour penser à quelque chose d'inconfortable, j'aime beaucoup être installé confortablement. Position assise, relâchée. Et puisqu'il y a tant de ces moments désagréables qu'on vit à cause de flashbacks, on va simplement s'imposer un petit flashback en prenant le temps de vous rappeler de ce moment désagréable avec autant de précision que possible. Quand est-ce que ça a eu lieu? Où est-ce que vous étiez? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Est-ce que vous pouvez vous rappeler du moment le plus désagréable dans ce moment désagréable, de l'instant qui a été pour vous le plus pénible ? Et en tournant maintenant votre attention vers le corps, quelles sont les sensations dans le corps ? En réaction à ce souvenir. Où sont-elles? Quelles sont ces sensations? Avec beaucoup de curiosité. Et en restant avec elles, instant après instant, restant avec le corps. Quand vous avez pris conscience des sensations dans le corps, en prenant le temps de nommer les émotions que vous avez ressenties pendant ce moment. Important de les nommer vraiment intérieurement, d'utiliser votre voix intérieure et de prononcer le nom de chaque émotion que vous pouvez reconnaître. les émotions pendant, après, si elles sont différentes, celles que vous avez vécues après. En laissant ce souvenir être présent, mais consacrant maintenant pleinement votre attention à la respiration. Et si ça vous aide, vous pouvez compter les respirations. Sentir l'inspiration, sentir l'expiration, compter 1, sentir l'inspiration, l'expiration, 2, jusqu'à 5. Quand vous arrivez à 5, 4, 3, en revenant en arrière jusqu'à 1. Le comptage intervient seulement entre deux respirations. Le centre de l'attention reste la sensation du soulèvement et de l'abaissement, respiration après respiration. Continuant à avoir conscience de chaque respiration avec ou sans comptage. En laissant la respiration, pour vous demander à nouveau comment sont les sensations dans le corps maintenant. Est-ce que ce sont les mêmes? Est-ce qu'elles ont changé? Et comment est l'état d'esprit? Maintenant. En gardant cette situation à l'esprit, prenons le temps de répondre à une première question. Dans cette situation que vous avez vécue, qu'est-ce que vous pourriez faire pour prendre soin de vous, pour faire quelque chose qui vous ferait du bien, qui vous permettrait de vous sentir mieux pendant ou après cette situation. prenant le temps de répondre à une deuxième question. Dans cette situation, qu'est-ce que vous pourriez faire pour agir, pour répondre de façon adéquate à ce qui se passe? En prenant le temps de répondre à une dernière question qui n'est pas moins importante que les deux précédentes. Dans cette situation, qu'est-ce que vous pourriez souhaiter le bienveillant à la personne qui l'a vécu, à vous-même, quand vous l'avez vécu? Qu'est-ce que vous pourriez vous souhaiter à vous-même de bienveillant? Pas un but à atteindre, vraiment un souhait bienveillant. Je me souhaite. Qu'est-ce que vous vous souhaitez? Quand on a passé un moment avec la respiration, ce cortex, ce fameux cortex est réactivé. Et du coup, on est en mesure de répondre à des questions intéressantes, des questions intelligentes à se poser. Et il y a une espèce de gradation parce que, évidemment, quand on peut faire quelque chose, c'est bien. Donc c'est une bonne question à se poser. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire ? Quand on ne peut pas faire quelque chose, il y a une autre question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de moi? Parce qu'on ne peut peut-être pas faire quelque chose pour changer la personne imbécile et abrutie qui vient de nous parler, mais on peut se couler un bain chaud. Donc on peut prendre soin de soi. Ou on peut manger du chocolat, mais en pleine conscience. C'est aussi prendre soin de soi. Donc, si on ne peut rien faire, on peut au moins prendre soin de soi d'une manière ou d'une autre. On peut prendre le téléphone et appeler quelqu'un, lui en parler, etc. C'est toutes ces choses, le self-care, comme disent les Américains, quand on prend soin de soi. Ça sonne toujours mieux quand c'est en anglais. Et puis, si on ne peut pas, ou si on peut, mais imaginons même qu'on ne puisse rien faire pour prendre soin de soi, ce qui peut arriver si on se pose cette question-là dans un contexte où il n'y a pas de répit possible, on peut au moins se souhaiter quelque chose de gentil à soi-même. Ça fait déjà du bien. Quand on est passé par la case respiration, on peut se poser ces questions-là. Et évidemment, on a aussi pris ce que tu évoquais tout à l'heure, la perspective méditative, qui est une perspective où on se décentre un petit peu pour pouvoir, s'appuyant sur le corps, observer ce qui nous arrive avec cette curiosité et cette capacité à dire « Ah ah, il y a de l'anxiété, il y a de la culpabilité, il y a de la colère. Comme c'est intéressant. C'est ça que je suis en train de vivre. » Et à partir du moment où vous dites anxiété, où vous dites colère, où vous dites culpabilité, vous êtes désidentifié de ces émotions. Vous n'êtes plus la colère, vous n'êtes plus la culpabilité, vous êtes cette partie de vous qui est capable de l'observer. Ce qui est, là aussi, par excellence, une compétence du préfrontal. Donc, on se remet vraiment dans cette position de métacognition, d'observation de ce qui se passe en nous, qui nous permet de nous poser les questions intelligentes et d'y apporter les réponses adéquates.
Moi, là où je bute, quand même.
Bute.
C'est que du moment que ce fameux cortex est inhibé, on a justement, enfin c'est un peu paradoxal, là. Il me semble qu'on n'a justement pas le discernement pour déjà penser à respirer. Il y a ce moment T, moi qui me dépasse, quoi.
Ah, oui.
Alors quand on le refait, quand on n'est pas dedans en plein, puis qu'on n'a pas l'émotion à 10 sur 10, je suis convaincue de ça et ça marche.
Mais quand on est en plein dedans,
souvent,
non.
Voilà, quand on est en plein dedans, je me dis justement, ben, je n'ai pas cette capacité-là, comment je peux penser à faire ça? Parce que je suis un peu anesthésiée, enfin je suis où on est un peu anesthésiée.
Oui.
C'est juste là où je bute, moi.
C'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est pas possible de le faire souvent dans le feu de l'action, quand on est en plein dans le moment de stress où on aurait le plus besoin d'être capable de le faire. Mais c'est pas tragique, parce qu'il y a tout le temps de flashback qui est très désagréable aussi, et où là, souvent, on peut le faire. Donc, si on avait plus que des moments désastreux de stress aigu, mais que le temps de rumination était divisé par 4, ce serait vachement bien. Et une fois qu'on a fait ça, c'est une compétence qu'on continue de développer aussi dans notre cerveau. Donc, plus on le fait régulièrement, plus ça devient possible de le faire en amont de la situation. Et en tout cas, c'est pas mal comme ça que je le vis. J'ai l'impression qu'il y a d'abord des situations que je reconnais comme étant problématiques, mais que je suis incapable de vivre différemment. Mais je suis capable, parce que je les ai déjà reconnues comme problématiques, de vivre l'après, le temps de rumination différemment. Et petit à petit, il y a un moment où il y a un état de conscience suffisant quand ça se passe pour qu'on puisse aussi avoir ce moment de détachement. Et souvent, c'est intéressant de remarquer, en tout cas pour moi, ça s'est très souvent passé comme ça, il y a d'abord une phase, il y a une phase d'inconscience. Donc je vis le moment de stress et je suis complètement pas là. Et je me réveille quand c'est fini et trop tard, mais pas trop tard, voilà, pour vivre différemment la rumination post-moment de stress. Et puis, il y a un moment intéressant où je vis le moment de stress, où je fais les mêmes erreurs, mais où je suis conscient. Comme ces rêves abominables où on a une lucidité du cauchemar qu'on est en train de vivre, mais on est incapable de faire quoi que ce soit. Donc, ces moments-là se produisent aussi. On a un de ces moments répétitifs, ces interactions insatisfaisantes, et on réagit de la même manière que d'habitude, mais on est là pour se dire « Mais pourquoi je fais ça, déjà? C'est complètement idiot. » Ou vous êtes en train de manger le paquet de chips et vous dites « Mais vous n'êtes pas en train de le manger en ayant cette espèce de naïveté de vous dire « Oui, c'est pas grave, cette fois-ci, je le mérite, puis j'en ai besoin, et puis demain, je mangerai rien. » Vous êtes en train de vous dire « Je mange un paquet de chips, c'est nul, c'est complètement nul, je vais me sentir nul après, pourquoi je fais ça? C'est grotesque. » Et vous avez ce degré de conscience supérieur. Et bien, vous n'êtes pas loin du moment où vous pourrez vous arrêter à la moitié du paquet. Donc, c'est vraiment graduel. Et c'est intéressant de le remarquer, mais effectivement, on est complètement impuissant quand on est vraiment. Il est effectivement déconnecté, notre préfrontal. Donc il faut que quelque chose se passe pour qu'on puisse même se poser la question. Et si je faisais de la pleine conscience, il faut déjà qu'on ait récupéré quelque chose. C'est dans les situations qu'on peut anticiper. Si vous avez par exemple une rencontre avec un membre de votre famille avec lequel ça se passe souvent pas bien, pour ne prendre qu'un exemple. Là, vous pouvez vraiment planifier, vous dire, OK, j'aimerais booster un petit peu mon préfrontal. Donc, 5 minutes avant, je médite pendant 5 minutes. Et comme ça, vous serez encore dans le prolongement de cette capacité à observer ce qui se passe en vous quand vous commencez à vous entretenir avec cette personne. Donc, on peut aussi avoir une espèce de petite préparation mentale avant un moment difficile. Oui, donc là, on a bien parlé de l'après et de l'avant pour le stress aigu.